I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those? They are clothes.
It's fashion art. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know?
That's all.
Bonjour Cyril.
Salut.
Bienvenue parmi nous.
Merci d'être avec nous.
On est super content de te recevoir.
En plus, on reçoit un auditeur, quelqu'un qui écoute le podcast. Donc je suis très très content.
Bon élève.
Effectivement, j'écoute le podcast depuis quelques temps. Oui.
Est-ce que tu le regardes sur YouTube? Petit instant promo.
Non, mais des fois quand je suis sur mon téléphone, la vidéo se diffuse en même temps sur Spotify, donc je le regarde sur Spotify.
Voilà, donc si vous voulez retrouver
avoir le plaisir de voir les invités en plus de les entendre
sur Spotify en vidéo. Et sur YouTube.
Et avec un vrai travail de montage. Ah c'est pas juste.
Enfin, gros big up à notre team monteur.
Yes, bon, bah du coup, tu connais un petit peu le format.
Yes.
C'est hyper biographique. On part des racines du berceau. Et on en arrive aujourd'hui, ce que tu fais. Okay. Et potentiellement même l'après avec tes projets à venir. Mm-hmm. Donc on commence avec la question standard. D'où est-ce que tu viens? Comment t'as grandi? C'est quoi les racines?
Alors, je viens de Haute-Savoie.
Okay.
Donc les départements 74.
Exactement.
Okay, j'ai vécu à Saint-Julien-en-Genevois. Pendant deux ans.
Bah donc moi je suis né à Sallanches. Les gens connaissent Sallanches parce qu'ils passent par là pour aller au ski souvent. Mais j'ai surtout grandi à Thonon-les-Bains.
Ok.
Joli.
Ouais, c'est pas mal. C'est une petite bourgade sympa. Origine, maman d'origine française, papa d'origine espagnole, d'où mon nom de famille, qui veut dire cheveux en espagnol. Heureusement, j'en ai. Et j'ai grandi donc en Haute-Savoie jusqu'à l'âge de à peu près 17 ans.
Ok.
L'école, c'était comment? Toi, je te sens bien.
On a un bon élève là, je pense. Non.
Ah, mais tellement pas.
Ah, ouais
ah non, je te crois pas.
Je te promets. Bah, je vais te le dire. Hein, en fait, je suis le premier de la famille.
Okay.
J'ai une sœur, mais je suis le premier des cousins, cousines des deux côtés. En plus, côté espagnol, il y avait un peu d'embrouille donc, entre les frères et sœurs, mes oncles et mes tantes, donc, ce qui fait que je ne voyais pas trop mes cousins. Donc j'étais et le premier et le seul mec pendant pas mal d'années.
Okay.
Et en gros, quand j'étais petit, j'étais tellement passif, j'écoutais rien, je ne comprenais rien ce qui se passait autour de moi, que ça rendait ouf mes parents. J'étais physiquement, je pense, présent dans la classe, mais j'étais pas dans la classe.
Mais quoi, rêveur, tête en l'air?
Ouais,
c'est quoi?
Tous les bulletins, c'était marqué rêveur, tête en l'air. Ouais. Enfin, je pense qu'à cette époque-là, en plus, on prenait pas le temps ce type de gamin qui était un peu à côté.
Non, mais c'est ça, le système n'est pas fait pour ça.
J'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parfois, on va capter ces mecs ou ces jeunes filles qui... sont là, mais ils sont pas trop là.
Même les gens qui sont dyslexiques, c'est une discussion que j'avais dernièrement, où avant c'était vraiment t'es nul.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, on essaie de les accompagner, on comprend que c'est quelque chose que tu peux accompagner et que tu peux avoir un parcours scolaire tout en étant dyslexique, alors qu'à mon époque et ton époque, c'était... Allez, mets-le au fond de la classe avec son premier Dan qui nous saoule pas trop.
C'est un peu ça l'idée.
Ah, ouais.
Et en fait, ma mère, je pense, a compensé ça. C'est-à-dire que elle prenait vraiment beaucoup de temps à faire les devoirs avec moi parce qu'elle voyait bien que y avait des choses qui rentraient pas, mais à des tels points où ça la faisait devenir folle, littéralement folle. Elle me hurlait dessus, mais gentiment, mais de nerfs. Je me rappelle, elle me disait mais tu comprends rien, t'es fou, tu comprends rien. Et ma sœur que j'adore,
qui est l'inverse du coup,
elle était l'inverse, super bonne. On avait deux ans d'écart. Elle me disait si tu veux, je peux faire tes devoirs à ta place. J'avais envie de l'éclater.
Oui.
Mais bizarrement, ça s'est retourné à mon avantage parce que, en fait, ma mère, sans le vouloir, sans le savoir, elle m'a apporté une discipline. En fait, à force de me forcer à bosser, à avoir une sorte de méthode, avec les années, je me suis détaché de son aide pour le faire de moi-même.
Okay.
Sans pour autant plus être participatif en cours. Mais j'avais pris l'habitude le soir il fallait que je bosse parce que clairement, il y avait plein de trucs que j'avais ratés. Donc j'ai toujours été plutôt moyen.
Mais gros travailleur. Mais souvent, sur le long terme, c'est des trucs, tu vois, où t'as deux frères. Ouais, tu vois, un qui est super brillant, qui a des facilités, et un qui est genre juste laborieux. Et après, sur les 20 ans, tu vois que les courbes, elles s'inversent totalement, quoi.
J'avoue. Et donc, en fait, ça a duré comme ça. Et j'ai toujours, si tu veux, maintenu le niveau pour être moyen un tout petit peu plus pour être sûr de passer, parce que j'avais qu'une hantise par rapport à la Haute-Savoie. Je voulais partir. Ouais. J'ai toujours su petit que j'adore mes parents, j'adore ma famille, et j'étais hyper casanier tout le temps en famille, et dès qu'il fallait faire des trucs en famille, j'étais partant et tout ça, tout ça. Parce que j'avais cette intime conviction que le jour où je partais...
Ouais, c'était...
There's no coming back.
No coming back.
Donc il n'y a pas de petit chalat à ton nom. Avec ton nom dessus.
Non. Non. Et en gros, c'était un peu ça. Et je me suis dit, mais à un tel point que c'est... Pas que c'en est devenu bête, mais quand je suis arrivé au lycée, j'ai préféré faire parfois certaines classes pour ne pas redoubler.
Toi, ouais, je m'attends bien
de
dire.
Au lieu de
conditionner. Bah, tu sais, au lieu d'aller se dire, je vais me faire une S, un gros challenge, je vais aller faire. Bon, je vais insulter personne. Donc, je vais pas dire des noms de filières. Mais...
c'est ça l'idée.
Mais c'est ça, les choix de facilité. Quoi.
Exactement. En gros, tu vois, je suis arrivé en seconde. J'étais bon dans certaines matières et super mauvais dans d'autres, mais vraiment mauvais. J'aurais pu redoubler la seconde, mais j'ai préféré, en seconde générale, j'ai préféré aller à l'époque, on appelait ça dans mes années
STT.
STT, exactement. Ouais. Parce que c'était quand même le lycée général et c'était pas le lycée technique. Lycée technique, mais c'était pour moi changer de lycée. J'avais toutes mes copines parce que j'étais surtout avec des meufs. Et en gros, j'ai préféré aller donc en première STT. Ça, je savais qu'à l'époque, on pouvait refuser le redoublement de la première.
Ah ouais, tu t'es renseigné quand même.
Que j'ai fait.
C'était stratégique.
Ce que j'ai fait. Donc autant dire que l'année dernière de première, j'ai rien branlé
du tout.
Et si mes parents écoutent ça, putain.
Ça va, là, il y a la prescription.
Ouais. Et après, en terminale, par contre, je me suis dit, là, terminale, il faut que j'ai le bac.
Ouais. Et puis après, la première année.
Ouais, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai bossé juste pour avoir le bac. Mm-hmm. Et ça m'a permis de partir. Et c'était pas encore. Quand toi, c'était pas fuir mes parents. J'étais très bien avec eux, mais j'avais besoin de quitter la Haute-Savoie. Je sentais depuis tout petit que j'étais pas forcément au bon endroit, mais sans savoir où je devais aller. Comme je viens d'un milieu plutôt modeste, j'ai été absolument entouré d'amour par mes parents, tout le monde, mais personne ne m'a montré de voie. J'étais le premier à avoir le bac, à potentiellement vouloir faire des études. Et si tu veux, mes parents n'ont pas su ou pu m'aider, mais plus par... manque d'infos. Puis encore une fois, à l'époque, je parle de ça, je suis un dinosaure, il n'y avait ni internet ni rien, et j'avoue que je n'ai pas eu aussi la curiosité par moi-même d'aller au devant, tu vois, de me dire tiens, je peux faire. Ça n'existait pas dans ma tête et ça avait pas, j'avais pas de question que ça puisse exister. Donc avec le recul, j'ai pas de regret du tout, parce que c'est comme ça et ça se refera comme ça si ça devait se refaire. Mais je me dis tiens, c'est con, parce que si j'avais eu cette curiosité, peut-être que de moi-même, je me serais dit, tiens, si c'est vraiment, tu veux partir dans cette direction, j'aurais tout fait pour partir dans la direction. Donc, j'ai toujours un peu vécu avec ça. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai 41 ans, je vis encore avec ça, tu vois, de fait d'avoir pas forcément fait de grandes études. Quand tu arrives à certains niveaux de poste, tu te dis, merde, finalement, est-ce que c'est un plafond de verre?
Ouais.
Particulièrement en France, où souvent les étiquettes sont importantes. Quand tu veux atteindre des gros postes de direction, on te demande toujours, on te ramène toujours à où est-ce que tu as étudié.
C'est marrant ça. Encore aujourd'hui, tu sens ça?
Moins, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a un mélange aussi de gens, mais oui quand même.
Okay.
Après, encore une fois, peut-être que je le vois comme ça, parce que je le perçois plus fort que d'autres te diront, mais pas du tout. Alors que, voilà. Donc en gros, voilà, donc je suis resté jusqu'à 17 ans à Thonon. À Thonon, j'ai basculé à Grenoble, où j'ai fait un DUT, Tech de Co. en parallèle, histoire de famille, mon père tombe très gravement malade. Donc ce qui fait que c'est une période très bizarre pour moi, c'est-à-dire que je vis la maladie de mon père qui est très forte, très violente, à distance, donc à la fois dans une forme de culpabilité vis-à-vis de ma sœur et de ma mère qui sont restées et qui vivent ça au quotidien, et en même temps impossible de revenir parce que j'étais dans ma route et dans mon truc,
dans ta vie, hein.
Et je me suis aperçu que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, où vraiment je me suis dit bon, je suis passé d'un jeune homme introverti, mais en tout cas plutôt pas aller au-devant des autres et plutôt avoir les choses du côté noir, pas un esprit sombre, mais plutôt du côté life is difficult. Et ben ça, tu vois, mais d'un coup, c'est-à-dire vraiment je me suis dit mais en fait non, c'est cool, tout va bien se passer. C'est une maladie qui a duré 3 ans, c'est de 3 cancers. Mes grands-parents décèdent à ce moment-là du côté de ma mère. Enfin, vraiment, c'était le cumul de miles. Mais en même temps, ça a été une maïeutique pour moi pour sortir des trucs et de me dire, mais tu sais quoi, en fait, je suis à Grenoble, j'ai pas envie d'y rester. J'ai fini mon DUT, j'étais au BDE forcément. J'avais envie de shine. avec ma copine de l'époque, parce qu'avant j'étais avec une fille, on a décidé de partir à Lyon. Parce que pour nous, Paris c'était trop big. Donc il fallait qu'on passe par Lyon.
Il y avait des étapes. Ah ouais,
et je pense que c'est pas plus mal. Parce que je pense que je serais pas la personne que je suis si j'avais été trop rapidement à Paris. J'aurais été trop perméable à plein de trucs. Et donc on est passé par Lyon, école de commerce plutôt moyenne, pour laquelle je me suis endetté, parce que c'était important pour moi d'être autonome, de ne pas faire subir ça à mes parents. Je trouvais qu'ils m'aidaient déjà assez avec leurs moyens, et pour eux c'était beaucoup. A posteriori, je pense que je réalise un peu mieux les pas forcément les sacrifices, mais les choix qu'ils ont dû faire, et comme c'est quelque chose qui j'ai vécu avec toute ma vie, parce que mes parents ont eu des velléités d'entrepreneuriat très jeunes, et ils se sont plantés très jeunes, mais plantés, pas plantés, vraiment plantades. Et comme moi j'étais l'aîné, et je pense que j'étais un peu trop curieux, j'écoutais trop leurs conversations. De mes yeux d'enfant et de mes oreilles d'enfant, j'entendais des choses qui étaient très impressionnantes, alors que ça devait pas l'être tant que ça, mais ça m'a donné ce truc de dire, mais en fait je veux jamais galérer dans ma vie en fait. Je veux pas être dans un truc de galère de thunes, je veux pas avoir à ce qu'on se pose de questions, je veux pas avoir à vivre ça et à le faire vivre à qui que ce soit. Et si je peux rendre l'appareil à mes parents, je trouverai une solution. Et c'est vrai qu'après, mes parents, ça s'est amélioré juste avant que mon père tombe malade d'ailleurs, ce qui était un peu con, mais c'est la vie. Et donc on est parti à Lyon, on est resté 2 ans, et là avec et ma copine de l'époque, avec qui j'étais toujours, et ma meilleure copine, ma meilleure pote, on s'est dit, allez, it's time.
To go to Paris.
Par la porte ou par la fenêtre, on se casse à Paris. Donc on est parti ensemble avec des rêves pleins à la tête. Ma copine de l'époque voulait devenir actrice.
Et moi, toi, tu voulais devenir quoi?
Moi, je voulais devenir, je sais pas en fait, parce que en gros, à Lyon, il fallait faire.
T'as agressé, toi. Mais toi, tu veux quoi en fait?
Tu veux quoi, mec? Non, en gros, à Lyon, j'ai fait un premier stage de troisième année, dans une boîte d'événementiel. Qui s'appelle Ivanhoé, je pense que ça existe encore. Événementiel plutôt sportif, plutôt pas mal. Et moi, ça m'a un peu mis dans le truc. C'était 2 mecs qui tenaient la boîte. Et clairement, ils m'ont fait confiance. A posteriori, j'ai compris pourquoi, parce que j'étais à fond et qu'ils auraient pu me mettre 1000 dossiers sur la tête que je les aurais fait. Parce que je me suis dit que c'était le truc. Et ce stage m'avait permis d'avoir un autre stage pour ma 4e année à la ville de Lyon au service des sports. Parce qu'on avait organisé des trucs pour eux, ils m'avaient repéré et moi, j'avais un peu joué. Non, bah, je l'attends. Et 3 semaines avant de partir en stage, c'est là où on prend notre décision de se dire, on se barre à Paris. Et bon, bah, on va voir. Moi, je vais sur le site d'LVMH.fr, je réponds à 2 annonces.
Qui n'est pas le site le plus accueillant de la Terre.
Non, et je te parle de ça en 2004.
C'est un peu austère.
Donc c'était maxi austère. Et en gros, je réponds à 2 annonces, une chez Givenchy, un stage, une chez Dior. Me demande pas pourquoi. C'est venu comme ça, parce que ni j'étais client, évidemment. Pour moi, c'était des marques très lointaines. J'avais l'image de Dior parce qu'il y avait Galliano qui revenait avec ses énormes campagnes, un peu visuellement très trash, mais cool. C'était de l'imagerie qui m'intéressait, mais sans, je pouvais ni l'expliquer, ni vraiment me la raconter. C'est juste que je voyais qu'il y avait un truc. Et puis, il y avait Givenchy. Givenchy me disait quelque chose. Et voilà. Donc, je pars avec, véridique, mon père à Paris. Ma copine et le meilleur pote de mon père qui habite à Paris. Mais vraiment, les Romano, quoi. Genre, allez les gars, on va à
la province.
La
province arrive à Paris.
Dans un costume.
Arrête.
Dans un costume G-Star à épaulettes.
Waouh. Je vois. J'ai
un truc marron avec petite liseré Bordeaux. Un peu pas de def. Et chaussures pointues.
Bien sûr.
Et évidemment, la mèche Justin Bieber avant l'heure. Donc, je me retrouve là à faire un entretien chez Dior, Avenue Montaigne, avec une RH dans un tout petit bureau. Elle me pose des questions. Dans la foulée, Givenchy, qui était de l'autre côté, Avenue Georges V. Voilà. Donc, je fais les 2 rendez-vous. Entre-temps, la fille de Dior me rappelle. Elle me dit... si vous voulez, vous pouvez rencontrer l'équipe de Dior Homme. Donc là, je comprends qu'en fait, c'est un stage pour Dior Homme.
Ok.
Donc moi, Dior Homme, période Eddie Slimane.
Donc moi, je ne sais pas qui est... À l'époque, je ne sais pas qui est Eddie Slimane.
Bien sûr.
Et là, j'arrive donc au 44 ou 40 rue François 1er. Donc, je monte au deuxième étage et je rentre dans ses bureaux. Et là, vraiment, là, il y a eu un truc. C'est-à-dire que je suis rentré dans ses bureaux, long couloir, au bout, une étagère en métal hyper symétrique, une ambiance...
à glacer le sang.
Mais en même temps cool. Donc j'avais ce truc. Donc je rentre avec mon costume, un rappel. Et là, sur la gauche, il y a une énorme table en métal sublime et ils sont quatre. Je peux les nommer, hein. Aude Revier, Jacques Chou, Delphine Christian et Laurence Klinknecht. Et je vois ces quatre personnages. Mais pour moi, c'est quatre personnages. Mmh. C'est-à-dire vraiment, Delphine, elle avait les crânes à moitié rasés, tout en dreadlocks, des tatouages sublimes partout, japonisants. Aude déjà, qui était un peu plus jeune, et Laurence, qui était en bout de table, et je peux le dire maintenant, qui fumait à la fenêtre. Ils avaient un peu fermé les volets parce qu'il y avait énormément de soleil et il y avait vraiment juste ce flash de lumière qui passait, sa clope, elle, qui est quand même... J'aime profondément Laurence et je vous dirai après pourquoi, mais je voyais ce truc, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ces gens ?
C'est hyper caricatural.
C'est un film, c'est une caricature, mais en même temps, mais une attraction. C'est-à-dire, je me suis dit, bon...
Bien sûr.
Je fais mon entretien et là, je sors de là, je me dis, mais la loose, je me suis planté, ils m'ont posé des questions, j'avais l'impression d'avoir répondu complètement à côté et d'avoir vraiment fait, là pour le coup, no offense aux provinciaux, mais un peu mon provincial. En plus, je savais pas exactement qui était Dee Slimane, bref. Je ressors, je me dis, bon bah, c'est mort. Une heure après, on me rappelle, on me dit, c'est bon, vous avez le stage.
Mais tu te souviens, t'as postulé en quoi, genre en marketing com parce
Non,
que...
en service de presse.
Ok, RP.
Oui, pardon, oui, ouais. Service de presse pour les deux, Givenchy et... Okay. Et il s'avère que j'avais été pris chez Givenchy aussi. Donc, comme quoi, G-Star. et donc là, je me dis, putain, c'est ouf. J'ai le droit de dire putain, oui.
Oui, enfin, tu dis tout ce que tu veux.
Et me voilà embarqué dans l'aventure. Donc, repartir à Lyon, dire à la ville de Lyon, bon, bah là, en fait, c'est oui, mais c'est non. Mm-hmm. Et trois semaines après, donc, trouver un appart, enfin, vraiment partir à l'arrache comme ça, avec, en camion, avec mon daron, à faire la route et tout. Et début mai 2004, c'est aussi pour ça que je suis content qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'était il y a 20 ans.
Ouais.
Ça fait 20 ans que je travaille dans ce milieu. Me voilà arrivé chez Dior Homme.
Mais alors attends, du coup, je retourne un tout petit peu en arrière. Ouais. C'est quoi ton rapport à la mode à ce moment-là ?
En fait, il est très lointain. Mon rapport à la mode, c'est Viviane Glacel sur TF1 quand je suis petit, à regarder ses imageries au journal. Parce qu'à l'époque, on passait beaucoup les images de mode au journal
télé. Absolument.
Je me souviens d'être fasciné par les défilés de Christian Lacroix, parce que c'était... Il y avait une extravagance, quelque chose de dingue. Et pour moi, c'était un peu la mode, un absolu. Et après, vraiment, l'époque, pour moi, la mode, c'était... J'aimais l'imagerie de Galliano. J'aimais ce qui se passait chez Dior. Je comprenais un peu qu'il y avait un truc. À Lyon, il y avait une boutique, une toute petite boutique rue Édouard Herriot, où j'allais pour rien m'acheter. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'y aller, de voir les produits. Mais encore une fois, sans le comprendre.
Pas une appétence, mais sans compréhension, quoi.
Ah ouais.
Et ma grand-mère, évidemment, maternelle, qui était couturière. Bon, peut-être qu'il y a des liens. Ouais. J'ai pas encore fait d'études avec Lacan, mais il y a peut-être un truc par là-dedans qui se joue. Mais je me sentais, comme je le disais à l'époque, j'avais l'impression de devoir me rapprocher de ces métiers-là sans savoir ce qu'étaient ces métiers-là. Un service de presse, je ne savais pas ce que c'était.
Ouais, mais c'est pour ça. Qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, dans tes entretiens ? Tu l'as su après ou pas ?
Ils m'ont dit que j'avais été tellement... Parce qu'en fait, je pense qu'ils recevaient tellement de candidatures de gens, de fils d'eux, de machin d'eux, de copains qui envoyaient leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, donc de gens qui étaient soit peut-être trop préparés, ou trop dans ce truc déjà hyper parisien.
Trop
performatif, alors que moi, je suis arrivé vraiment, je leur ai mis tout sur la table. C'est-à-dire vraiment, je leur ai dit, voilà qui je suis, je ne vous mens pas, et surtout, je suis prêt à bosser comme un fou. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que du premier jour où je suis rentré dans les trucs, je me suis dit, je repars pas d'ici.
Okay.
Quoi qu'il se passe, je ne repars pas d'ici.
C'est ça la mentale.
Et donc j'avais un premier stage pour ma quatrième année. Donc j'ai fait ma quatrième année, rendu mon mémoire et tout. J'ai traîné le stage jusqu'au maximum de ce que je pouvais. Ils m'ont rapidement dit, si tu veux continuer, oui, mais en stage. Donc j'ai vu avec l'école pour faire ma cinquième année à Paris en cours de week-end, en me disant, il y avait en fait une sorte de module qui pouvait permettre de faire des cours les vendredis et les samedis, et les vendredis une semaine sur deux. Donc je me suis dit c'était nickel, et les samedis tous les samedis. Je me suis dit go. Et en fait, ça m'a permis de reconduire mon stage encore pendant pas mal de mois. Mm-hmm. Et il s'avère qu'à la fin de ce second stage, il y a deux personnes de l'équipe qui sont parties. Donc, ça a ouvert la possibilité pour moi de rester. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire qui, 20 ans après, je réalise à quel point ça m'a formé et que ça m'a aussi formaté. Parce que Eddie et Laurence, ils avaient un regard sur la com qui était déjà un regard de marketeux. Parce qu'ils considéraient ça dans un rapport holistique où on ne prenait pas qu'un élément, il n'y avait pas que le service de presse. C'était le service de presse, mais quel message par rapport aux vitrines, quel message par rapport au défilé, qu'est-ce que Eddie va faire dans la pluralité de l'univers de Dior, parce que Eddie voulait tout gérer, la mode, les montres, la beauté avec le lancement de Dior Homme, le parfum, Dermosystème, les colognes, enfin tout cet univers-là. Et en fait, on gérait tout. Donc c'était hyper intéressant. J'étais pas que attaché de presse pour les collections mode. En plus, on gérait l'international parce qu'on avait quelques bureaux de presse, mais c'était vraiment très centralisé. Et la chance, c'est que Laurence m'a aussi fait une confiance totale. C'est-à-dire qu'elle m'a appris sa méthode. Elle venait de Michel Montagne sur l'organisation des défilés, qui était très centrale encore aujourd'hui, mais à l'époque d'autant plus. Ouais. Le rapport à la presse et surtout le fait de pouvoir travailler avec Eddie, notamment sur quelques-uns de ses projets personnels. Quand il a fait la curation de l'œuvre de Robert Mapplethorpe chez Tadeusz Rypak, il a fallu organiser un dîner et tout ça. Donc ça nous sortait un peu du côté purement mode, où il avait fait sa ligne de meubles avec Dover Street Market, F-System. Mm-hmm. Il commençait à sortir ses livres en tant que photographe. Il y avait London Birth of a Cult. Enfin bref, c'était... Et nous, ça nous amenait ailleurs. Ça nous faisait aussi faire se rencontrer son univers à lui avec la mode. On mélangeait les gens à des défilés. Enfin, ça a été pour moi une expérience folle, professionnellement, parce que ça m'a appris énormément de choses. Un regard aussi sur la mode. Il faut dire qu'aussi, c'était... Avec le recul, je m'aperçois que c'était le bon endroit parce que c'était une des seules marques de mode qui était dingue. Il avait apporté quelque chose de tellement nouveau. Et puis, il y avait quand même Dior derrière. Donc, on avait quand même des moyens, on ne va pas se mentir.
Sure.
Donc, c'était assez génial. Et à titre personnel, ça m'a aussi fait évoluer. Forcément, je suis arrivé dans un endroit où finalement, je me suis senti moi-même. Et je vous raconte deux choses qui ont été des moments, des sortes d'épiphanie pour moi-même. C'est Laurence, en fait, elle faisait partie de ce groupe de filles Kill the DJ, dont il y avait qui était surtout lié au pulp. Donc c'était des Jennifer Cardini, Chloé, etc. Donc moi, je connaissais pas tous ces gens, évidemment, mais elle m'emmenait avec elle au pulp. Elle me dit mais viens avec moi, c'est cool et tout. Et je vous jure, et vraiment Laurence, merci à jamais, parce que je suis arrivé au pulp. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon corps. Je me suis dit, mais en fait, c'est cette musique qui me parle. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui sont comme ça, qui sont habillés comme ça, qui rigolent comme ça, qui
dansent comme ça. Tu te sens à ta place pour la première fois.
Je me suis senti à ma place. Vraiment, je me suis dit, en fait, je suis exactement là où je dois être au moment où je le suis. Une hypersensibilité de ce qui se passait autour de moi. Mm-hmm. Ça a été un premier moment. Et ensuite, Laurence mettait beaucoup de musique au bureau. On avait de la chance d'avoir un énorme système de son. Et je me rappelle qu'elle mettait des sons qui me percutaient. Je me suis dit, moi, j'écoutais de la pop à la radio sur Énergie Haute-Savoie. Donc j'ai grandi à ça. Et sans curiosité forcément d'aller chercher ailleurs. Ou à la musique française traditionnelle, on va dire, classique. Et à travers elle et à travers ces gens, j'ai découvert cette musique-là. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce genre de son que j'aime. Et en fait, je me rappelle d'être au bureau, taper mes mails et me dire, mais c'est ouf, parce que ça me fait découvrir des trucs, et j'en ai besoin, j'en ai envie, il fallait que je le réécoute. J'avais à l'époque commencé à avoir les iPods, il fallait que je fasse des trucs et que je trouve cette musique. Et c'est des moments qui ont été révélateurs pour moi. C'est aussi là où je me suis compris homosexuel. Ça a fait partie aussi de ce truc-là, et qui était en aucun cas lié au fait de venir bosser dans la mode, c'était juste que c'était en moi. Donc je pense que c'est ça que je sens. J'ai compris qu'en fait c'était ça que je sentais petit, que c'était aussi pour ça que j'avais besoin de me décentrer pour me recentrer. Et c'est ça que ça m'a apporté Dior Homme à l'époque.
C'est un gros step là, c'est un changement de vie limite quoi.
Ouais, mais ça a été nécessaire. Il s'avère que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon conjoint Jean-François, avec qui je suis toujours.
Trop bien.
18 ans après. Et donc après, Eddie quitte ses fonctions. Ça a été assez dingue pour nous parce que on s'y attendait pas et voilà.
Et ça se passait bien en plus. Ouais.
Oui, oui, on, j'avoue que franchement, alors nous à notre niveau on l'avait pas vu venir. Peut-être que Laurence, elle avait plus d'infos, mais ça a été, je pense, un peu brutal. Et donc forcément à cette époque-là, un peu comme aujourd'hui, hein, c'est t'appuies sur un bouton et il y a pas mal de gens qui sautent. Donc ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Laurence a été aussi a fait partie de du premier départ. Et moi j'ai rapidement pris la décision de démissionner. Alors mes parents étaient dans une colère noire. Ils m'ont dit mais à quel moment tu démissionnes d'une telle boîte en fait. C'est incompréhensible. Mais même maintenant si c'était à refaire je le referais pas. Mais sur le moment j'étais convaincu. C'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas travailler avec Laurence, je ne pouvais pas ne pas travailler pour Eddy, j'avais rien
c'est
du tout.
C'est Laura qui l'a, hein, c'est ce truc oui. presque de gourou où les gens autour de lui
sont dévoués corps et âme à lui. Je suis arrivé, j'avais à peine 21 ans, je ressors de là, j'ai bientôt 25 ans, enfin vraiment c'est un gros moment de ma vie. Et je démissionne, et en fait, évidemment, Chris Van Hache est nommé à l'époque. Moi je l'avais connu au tout début parce qu'il était l'assistant, le premier assistant d'Eddy quand moi je suis arrivé. Donc, comme c'était un peu moi qui devais un peu organiser les défis à l'époque, je lui ai fait sa première... préparer, c'est pas moi qui ai fait. J'ai simplement aidé à la préparation, mais je voulais pas être là le premier jour, parce que ça, pour moi, ça m'engageait sur une nouvelle histoire et je me sentais pas. Et après discussion avec Dior, j'ai effectivement posé ma dème. Je suis parti voir ma sœur à Vancouver, qui a habité avec 6 filles dans un appartement, mais une horreur de taudis de l'enfer. Je savais pas que des filles pouvaient faire ça, mais bon. Donc je suis resté quelques semaines et en revenant, je passais des entretiens chez Balenciaga à l'époque et Yves Saint Laurent à l'époque. Chez Saint Laurent, c'était un peu particulier parce qu'il y avait pas de dircom. Thomas Dupré de Saint-Maur venait de quitter ses fonctions et il n'y avait pas encore le remplaçant qui était Siddhartha Shukla à l'époque, qui est aujourd'hui le CEO de Lanvin. Et Siddhartha n'était pas encore arrivé de New York. Lui était basé à New York pour Saint-Laurent et il devait arriver à Paris. Donc en fait, mon premier entretien, je le passe directement avec Valérie Herman, à l'époque CEO de Saint-Laurent. Et là, je passe un entretien un peu particulier. Donc moi, je viens par la recommandation de Florian de Saint-Pierre parce que Eddy avait été super cool avec nous, il avait donné nos noms à Florian de Saint-Pierre. J'ai cette femme qui a une énergie dingue, une folie, de tempérament, de envie de que les choses bougent, et elle me parle pendant 20 minutes de son projet, de ce qu'elle a envie de faire pour Saint-Laurent et tout, et basta. Très peu de questions, et merci, au revoir. Donc là, je me dis, bon, bah, plantade. Et en fait non, on m'appelle pour que le lendemain je rencontre Stefano Pilati.
Ah ouais, si j'allais dire, c'est pour Stefano Pilati.
Ouais. Et là je me.
La même ambiance.
Non, et là je me fais dessus, je me dis putain, en plus le mec était trop beau et tout, vraiment. Je me suis dit mais c'est une cata, comment je veux faire. Et en fait j'ai fait mon entretien avec lui et j'ai senti le gars et je me suis dit waouh, bon cool, tu vois. Je connaissais moins son univers, j'aimais bien ce que Saint Laurent proposait à l'époque et je le connaissais moins lui. Et j'ai senti que ça avait fité, et en l'occurrence, ça a fité. Donc, j'ai été chez Yves Saint Laurent. Et
t'es vraiment bon en entretien, quoi. C'est ça. Il semble.
Si on retient que je sais pas. Chose.
Peut-être au bon endroit. Où... Et en fait, en gros, on me dit, c'est un poste rattaché à la communication, mais un peu hybride, ce qu'ils appelaient à l'époque projets spéciaux. Et c'est ça qui me plaisait aussi. C'est qu'en fait, le poste, c'était pas faire que de la com. C'était. En fait, ce que Valérie voulait mettre en place, c'était comment on fait pour accélérer le business pour Yves Saint Laurent sans ne faire que les défilés. Donc c'est, on a nos défilés, on a la voix de Stefano à travers les campagnes, et comment on fait pour faire d'autres projets à côté, avec en plus Valérie qui était une merchandiseuse qui venait du produit de chez Dior, avait en fait étoffé l'offre avec pas mal de collections capsules. Donc c'était telle collection capsule, comment on va la marketer. Donc pour vous donner un exemple très concret, c'était par exemple, il y avait une collection de capsules de robe du soir qui s'appelait Édition Soir. C'est dire, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la markete? Donc on s'est dit, finalement, le marché qui fonctionne bien, c'est le marché américain à l'époque, sur ce type de produit. Ce qui fait du sens pour l'histoire de Saint-Laurent, c'est l'opéra. Bon, on peut signer un deal avec le Metropolitan Opera de New York pendant 4 ans, qui est du grand mécénat. Et ça nous ouvre, ça nous permet en fait de faire un dîner de gala d'ouverture de la saison. Et en fait, ce dîner de gala, on habille tant de célébrités en édition soir. Donc ça nous permettait chaque année d'avoir ce truc-là. C'est un exemple. Après, on avait d'autres choses à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on distribuait le manifesto 2 fois par an dans la rue. C'était en fait une sorte de, pas catalogue, mais d'édition des campagnes de com qui étaient shootées par Inès et Vinoud et qu'on distribuait gratuitement deux fois par an dans la rue, dans 6 villes du monde simultanément. Okay. Et après quelques saisons, on a mis un sac. C'était la grande époque des tote bags.
Des tote bags, ouais,
donc on distribuait des tote bags gratuitement. Donc c'était en plus devenu un peu une sorte de phénomène parce que c'était aussi les prémices de Facebook. Donc on s'est dit comment on va aller créer des événements sur les réseaux sociaux qui venaient de se mettre en route, donc 2007-2008, avec une marque de luxe qui n'a pas l'habitude de faire, si je devais faire un raccourci, du street marketing, même si c'était pas exactement ça, mais en tout cas prendre la parole différemment. Et en fait c'était ça le poste, c'était aller chercher des idées, être auprès de Siddhartha, aussi être auprès de Stefano et Valérie. Donc c'était super intéressant, ça me faisait toucher un peu à tout. Et après quelques temps, finalement, ça s'est un peu changé. Donc, je suis devenu et responsable de la presse à l'international et projets spéciaux. Donc, c'est aussi ça qui m'a permis de commencer à manager des gens. Donc, il y avait toute la coordination presse avec tous l'ensemble des bureaux. Donc, pour les flux ascendants, descendants d'informations, ça allait des budgets en passant par les commandes de collection, plus les communiqués de presse, tout ça, enfin, toutes ces choses qui sont du quotidien, et les projets spéciaux qui nous permettaient de continuer à aller chercher des idées out of the box. Et qui allait jusqu'à, par exemple, faire de la communication corporate quand on a été break-even, que la maison est redevenue bénéficiaire et profitable. Et on a travaillé avec les équipes PPR, je le dis là parce que ça fera du sens après, avec les équipes PPR et Gucci Group à l'époque, pour préparer la com, parce que Valérie devait prendre la parole avec M. Pinault. Enfin bref, il y avait tout un... Donc ça me permettait en plus de toucher à tout. On faisait aussi beaucoup de liens avec la fondation Saint-Laurent-Pierre Berger. Malgré le fait que Pierre Berger faisait toute une grosse campagne de com un peu contre Stefano, mais on essayait de travailler en bonne intelligence avec Robin Fournier qui était à l'époque en charge de la fondation, et c'était aussi à ce moment-là que Monsieur Saint Laurent est décédé, donc on avait quand même un peu une prise de parole à prévoir. Donc voilà, c'était un peu tout ça, et ça a duré presque 5 ans, et au bout de 5 ans. Par le biais de Jean-Jacques Picard, qui m'a toujours un peu suivi, parce que je l'avais connu, parce qu'il était le conseiller d'Eddie Slimane chez Diorome, et il était proche de Laurence, et Laurence avait dit « va le voir si t'as besoin de conseils, si t'as besoin de... » Tu vois, après ma démission et tout. Donc je l'avais toujours un peu vu, on se voyait pour des petits déj et tout, et c'est quelqu'un vraiment qui était assez fascinant par sa connaissance, puis sa pertinence sensible du métier et des gens. Et lui me dit... Il y a Carven, il y a Guillaume Henry, qui est pour le coup vraiment l'un de ses protégés, et Henri Sebaoun. Il me dit, tu devrais les rencontrer. Ah ok, moi j'avais vu les prémices de Carven, où ça commençait à devenir un truc un peu cool, et il y avait une proposition qui était atypique, avec ce luxe accessible, avec un propos de mode assez affirmé, et là...
cool, c'était le truc cool de l'époque, ouais.
Et là... je déjeune avec Henri, Jean-Jacques et Guillaume, et là, coup de foudre professionnel pour Guillaume. Je me dis, putain, le mec, on a quasiment le même âge, j'adore ce qu'il dit, on a des mêmes refs, un peu lui aussi, débarqué de province et tout, mais en même temps, un propos hyper précis en termes de mode, de culture de mode et tout. Je me dis, ah, ça pourrait être pas mal. Et donc, je me dis, allez, go. Je me tire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais aussi très fatigué de Saint-Laurent. On travaillait énormément. Quasiment tous les week-ends. Et aussi, j'ai fait quasiment un an avant de vraiment prendre la décision de partir, j'ai fait un burn-out. Et j'ai eu de la chance d'avoir un boss qui l'a vu, qui m'a pris mon téléphone un jour, il m'a dit « tu rentres chez toi ». On devait partir faire la cruise à New York, il m'a dit « tu viens pas à New York, tu rentres chez toi et je veux pas te voir pendant une semaine ». Ça a été une violence pour moi, je me l'ai pris comme une insulte, comme une punition, mais en fait, il a eu tellement raison. Parce que je pense qu'il était en train de me voir m'effondrer.
Sombrer.
Et sombrer dans ce truc où j'arrivais plus du tout à gérer mon stress. Je me souviens.
Puis 5 millions, on montre pas trop. Je veux dire, quand tu es à ce niveau-là de game où il faut toujours que tu sois très fort, il n'y a pas de faille, il faut que tu répondes à tout. Donc c'est dur aussi, même si tu le perçois, d'avoir le courage de le partager avec le reste.
Et puis en plus, moi, c'était, j'avais un peu la politique du marche ou crève. J'étais tellement conscient d'avoir de la chance d'être là où je suis, rapport à là d'où je venais, je me suis dit, je peux pas lâcher, c'est pas possible. Si je lâche, je perds tout. Alors que pas du tout, en fait. Mais ça, je m'en suis rendu compte a posteriori.
Plus tard.
Mais en tout cas, lui, à ce moment-là, il m'a fait un électrochoc qui m'a permis justement de prendre du recul et de maturer la décision qu'il fallait qu'en fait je passe à autre chose. Le seul truc, c'est qu'au moment où je pose ma dème, il se passe genre quelques semaines, et là je suis appelé par les RH, à l'époque Chantal Blandel chez Saint-Laurent, qui me dit je vais vous mettre dans la confidence de quelque chose de très important. Donc c'était 2 mois avant que je parte, et c'était, je partais juste après le prochain défilé de Stefano, qui s'avère sera son dernier défilé. Et on me dit, voilà, il y a Monsieur Slimane qui est arrivé là. Je me suis dit, ah putain. Et vraiment, et là, on me dit, bah, donc Slimane qui arrive avec Laurence. Et donc, toute cette équipe que j'avais adorée, avec laquelle j'ai grandi, je me dis, mais merde. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Parce que j'avais pu voir Laurence qui m'avait dit, mais tu es plus que le bienvenu de rester. En plus, Carmen, à l'époque, c'était... Enfin, c'était un peu lointain, tu vois. C'était certains disaient c'est une marque du sentier, d'autres disaient mais c'est pas viable, enfin ce genre de choses. Et donc il y avait un peu de critique par rapport à ça, mais tout le monde était extrêmement bienveillant quand même. Mais un peu genre pose-toi les bonnes questions, mon pote, parce que là t'as un boulevard. Donc et j'ai gardé ma décision et j'avais même écrit à Eddie un petit mot avec une photo que j'avais récupérée de l'époque de fitting, en disant voilà, j'avais besoin de passer à autre chose en fait. J'avais fini ce chapitre avec Saint Laurent, je savais que toute cette équipe allait arriver, allait construire quelque chose de radicalement différent. Et je sais pas, est-ce que j'aurais eu la bonne énergie, est-ce que j'aurais été au bon endroit pour déconstruire quelque chose que j'avais passé presque 5 ans à construire. Je me suis dit bon. Et puis l'envie, j'avais déjà de toute façon pris ma décision pour Carven, je m'étais engagé et je me suis dit, faut que j'y aille. Et ça me permettait aussi de passer dans un poste plus de direction, aux côtés d'Henri Sebaoun et de Guillaume Henry, et sur un projet avec une feuille de route de dingue. En gros, Henri m'avait dit, c'est simple,
mais tout à fait.
Tu vas arriver, il faut relancer l'homme, on va maintenant montrer les précos à New York, on va changer le format des défilés, on va changer le siège social pour migrer dans le 6e arrondissement, rue de l'Abbaye, et tout ça en 2 ans.
Et moi, bah, Henri, il a une vraie énergie, hein, pour le connaître. Et quand il dit on va faire les choses, on va faire les choses.
On les fait, ça, il y a zéro doute. Et ça me plaisait. Et ça me plaisait, cette énergie-là, je ne la connaissais pas. Quelque chose de beaucoup plus entrepreneurial, beaucoup plus concret.
À taille humaine aussi.
Et à taille humaine, clairement. Et avec Guillaume, j'aimais bien ce qu'il faisait. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça intéressant. Puis ça avait un impact. Ça a un impact sur les gens autour de moi, ça avait un impact sur, je voyais bien le business qui était en train de monter. En plus, il y avait une écriture d'image avec Viviane Sassen sur chaque saison qui était hyper intéressante. Ça me permettait d'être plus en front line dans les négos de médias avec les magazines, donc de faire aussi évoluer ma fonction et d'appliquer un peu ce que j'avais appris sur les 8-9 dernières années. Donc ça a été franchement un tourbillon. Et je pense que dans ma tête, j'étais pas totalement... pas guéri, mais totalement sorti du burn-out. Et c'est vrai qu'au bout d'un an et demi, j'ai senti des signaux de faiblesse. En parallèle de ça, moi, j'ai oublié de le préciser, mais je m'étais mis à être prof à Dupéret.
Ok.
En parallèle de Saint-Laurent, j'avais écrit une thèse sur l'émotion et l'émotion dans la communication. Un truc qui m'était un peu sorti comme ça. Et j'ai présenté à Dupéret, par l'intermédiaire d'amis, un garçon que j'admire énormément, qui s'appelle Mathieu Buard. Qui est un des boss de Dupéret, et on se connaissait pas du tout, on s'est rencontrés, ça a été pareil un choc d'amitié, et il m'a dit ben votre truc m'intéresse, mais par contre pas dans cette forme, moi je veux bien que vous le fassiez mais en format court pour les enfants pardon, pour les élèves, les DSA, donc les 3e année majeure mode et design, donc voilà, donc j'étais aussi embarqué dans ce truc là à côté, ça m'a fait déclencher une envie d'écriture.
Okay.
Pour moi perso. Donc je m'étais mis à écrire dans une forme d'urgence, dans les avions, en allant à New York avec Carven, dans des moments de stress, parce que j'étais à l'époque extrêmement angoissé de l'avion, mais à un niveau délire.
Okay.
Ah ouais, à un niveau, j'avais un rituel, fallait que j'appelle mon mec, fallait que j'appelle ma mère. Si je mettais le pied trop à droite, vraiment c'était...
On en connaît on en a un dans notre entourage qui est...
C'était particulier quand même.
T'as fait Stagiaire France pour après être...
Ouais, je le conseille à tous.
Ah ouais,
le Stagiaire France nickel et de l'hypnose.
Ok.
Ouais, c'est les deux trucs qui marchent.
Et, ouais, et ça a été franchement... ouais. Et donc, en gros, comme j'avais ce truc dans ma tête, j'ai commencé à me dire non, mais en fait, c'est peut-être pas ça, peut-être qu'il faut que je m'arrête. Ça faisait 10 ans, j'allais bientôt faire un peu plus de 10 ans de carrière. Je me suis dit, bah, peut-être il faut que je passe à autre chose, que je me mette à écrire ou que je me laisse du temps pour ça. Et j'ai vraiment pensé que c'était sincère et dans ma démarche. Donc j'ai commencé à en parler à Guillaume et à Henri. Je suis pas sûr qu'à l'époque ils aient totalement compris, parce que même moi je pense que je savais pas trop comment l'expliquer. Donc je me suis dit qu'il fallait que je parte et qu'il fallait que finalement on avait tout fait en plus. On avait ou vers New York, ou vers Londres, ou vers Tokyo. On avait montré les collections Milk Studio à l'époque à New York. On avait migré les défilés dans les galeries du Grand Palais. On avait ouvert des plans médias dans les pays concernés, là où on commençait à avoir du retail. Donc vraiment, on avait fait des choses en bonne et due forme. On avait relancé l'homme en étant les special guests du Pitti Homo, avec un grand défilé très mis en scène, comme Guillaume savait faire. Donc je me sentais en plus assez à l'aise en me disant...
Tu as fait le taf.
Je pensais, en tout cas à mon niveau, j'avais participé à ce qu'il fallait participer, et je me sentais pas trop mal à l'aise.
Pas déserteur, ouais.
Ouais, voilà. Et bon, il s'avère que quelques temps après, très peu de temps après, finalement, Guillaume a choisi de partir aussi pour Nina Ricci. Donc en plus, je me suis dit, bon, c'était peut-être la fin d'un cycle. Et finalement, tu vois, Eddie est parti, je suis parti, Stefano est parti, je suis parti. J'ai rationalisé le truc en me disant, finalement, c'est aussi justifiable auprès de... si je dois me faire réembaucher. Mais en fait, ça n'a pas duré très longtemps, parce que pendant ma période de départ de Carven, je recontacte une ancienne collègue de chez PPR, qui, entre-temps, venait de devenir Kering, avec le démantèlement du Gucci Group. Et en gros, c'était plus pour des conseils, en fait. En mode, je sens que j'ai fait pas le tour de la mode, mais j'ai bossé avec 3 créateurs. C'était super intéressant, dans 3 maisons, 3 formats différents.
3 univers de marques différents aussi.
Voilà, donc c'était un plus, un limite, genre, comment je peux envisager la suite. Donc j'avais aussi écrit à des cabinets de recrutement pour m'aider à peut-être, est-ce qu'il faut que je reprenne mes études? Est-ce qu'il faut que je fasse un MBA? Est-ce qu'il faut que je change? Bref. Et elle me dit, ça tombe bien qu'on se parle, parce que on a un poste de directeur image et contenu pour donner du corps à la marque corporate Kering. Et pour ça, on a envie d'avoir un profil qui vient des marques pour aller vers le groupe, parce que habituellement c'est du groupe vers les marques. Et je me dis, carrément, ça me ferait faire autre chose. C'est du corporate. En plus, c'était bossé pour une femme fascinante qui s'appelle Louise Beveridge, qui vient de la com et de la com. Du business, de la banque. Donc un truc hyper plus structuré où tu prends vraiment beaucoup plus de temps dans l'élaboration de tes campagnes et de tes mécaniques de plan. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc je fais les entretiens et finalement ça se passe. Et donc je me dis, basta l'écriture, ce sera toujours on the side et je me lance là-dedans. Et là, Louise me dit, moi, la mode, je m'y connais pas. Par contre, la com corpo, faire des marques corporate, c'est mon truc. Donc, on va s'échanger, tu vois. Et c'était une femme qui avait cette nature de, je pense, faire confiance aux gens qui se donnent et qui, savent rester là où ils doivent rester. Et donc, c'était génial parce qu'en fait, j'ai énormément appris avec elle. Il y avait aussi Charlotte Judet à l'époque qui était sur la com corpo et qui ensuite est partie en Chine quand Kering, l'entité de Kering Chine a été montée et un binôme qui s'appelle Paul Michon et qui est toujours chez Kering et tous ces gens-là m'ont fait rentrer avec eux, en fait ils m'ont pas regardé avec distance, ils m'ont pas dit mais attends toi tu viens des marques donc, et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait à travers le regard j'avais un capital d'un savoir de ces 10 ans de business dans les marques.
Puis pour le coup ils t'ont pas fait le truc de tu viens d'un DUT de province.
Jamais.
Ouais. Non, le deuxième du coup, groupe de mode au monde.
Et ça a été extraordinaire pour ça, parce que je me suis senti accueilli pour ce que j'étais professionnellement et personnellement. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de... Voilà. Alors qu'effectivement, j'étais une des premières recrues qui vraiment montait des marques au niveau de la mode. Et en fait, il y avait un peu deux sujets. Il y avait la création de... Enfin, donner du corps à la marque Corporate Kering. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait dire? Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Comment elle a fait évoluer cette marque, d'une part, avec des sujets très concrets, genre l'Assemblée Générale des Actionnaires, le rapport annuel, donc des choses que je n'avais jamais fait, mais qui étaient hyper intéressantes, très appliquées, et en plus très cadrées, jusqu'à faire des cocktails à l'ambassade de France à Pékin. Enfin, vraiment, c'était très très large. Et de l'autre côté, c'était aussi permettre aux marques... et au groupe de se rapprocher. Vu qu'avant il y avait PPR, Gucci Group et les marques, le groupe n'avait pas forcément toujours l'habitude de travailler en direct. Alors après il y avait les shared services qui pouvaient être l'IT, la compta, les RH, enfin ce genre de choses, plus de fonctions support, mais les fonctions de com finalement un peu moins, voire un peu de distance parfois. Et moi je l'avais vécu en étant chez Saint Laurent, que parfois je sentais que le groupe comprenaient pas exactement notre rythme ou comprenaient pas exactement comment on fonctionnait. Donc c'était aussi peut-être apporter à mon petit niveau des points de convergence. Et ça a été extrêmement enrichissant. Et c'est surtout qu'un jour, Louise vient en disant, voilà, François-Henri nous a posé une problématique, c'est je veux que vous trouviez un projet qui fasse du sens pour le groupe et qui fasse du sens pour les marques, sur lequel le groupe investirait. Et là, on s'est mis dans un mode de réflexion avec mon équipe et notamment Bérangère Gaucher, qui est encore maintenant là-bas chez Kering, et à se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on a commencé à tirer des fils. Il y avait le sujet des femmes, il y avait le sujet du cinéma, il y avait et à force de réfléchir et puis de commencer à parler un peu autour de nous, on comprend qu'en fait, le Festival des Cannes cherche un nouveau partenaire, un nouveau grand partenaire, comme L'Oréal, comme Chopard. Et là, en fait, on se dit, tiens, et si finalement, on n'avait pas un espace légitime pour le groupe en termes de fonds sur le sujet des femmes dans le cinéma et de ce que représentent les femmes à travers le cinéma. Donc ça, on parle de ça, c'est 3 ans avant l'affaire MeToo et Weinstein.
Ouais, bien sûr.
Okay.
Et, bref, je ne sais pas comment, mais on a mis le doigt là-dessus. Et parce que Louise, elle avait ce truc assez visionnaire, puis elle était très concernée par les sujets des femmes, elle faisait par ailleurs beaucoup de choses sur ces questions-là.
Ils ont un podcast d'ailleurs, Kering, sur les femmes dans la mode.
Bah c'est là où, avec Louise et Bérangère, on a créé le mot Woman in Motion.
Donc le programme Woman in Motion.
Qui est toujours aujourd'hui en place et qui est, franchement, à titre perso et pro, qui est un achievement dont je suis très fier. Et de l'avoir fait en plus en mode collectif avec une équipe, on était hyper soudés et on avait vraiment envie que ça marche. Et on y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour le mettre en place. Et de l'autre côté, donc ça servait le fond du sujet et la marque Corporate Kering qui pouvait prendre la parole. Et de l'autre, c'est le Festival de Cannes, le 3e événement le plus médiatisé au monde. Et ça nous donnait ça donnait aux marques en fait un avantage. Et en fait, à force de réfléchir avec l'équipe, on a réalisé qu'il y avait un 3e avantage, c'est que si on faisait les choses correctement, on pouvait créer ce qu'on a appelé à l'époque la Money Can Buy Experience, qu'on proposait en clienteling pour toutes nos marques, c'est de faire venir leurs clients pour faire démonter des marches. Et ça, c'est un deal que nous ouvrait le partenariat. Donc on a joué sur ces 3 niveaux. Donc il y avait la série, le cycle de conférences avec des marques médias, donc Hollywood Reporter, Variety et Figaro, le Madame Figaro, le groupe Figaro, où il y avait une femme cinéaste qui prenait la parole tous les matins dans la suite Kering sur le sujet des femmes et du cinéma.
Okay.
Plus le grand dîner du Festival de Cannes. À l'époque, donc Pierre Lescure vient de prendre la présidence du festival et veut un peu changer le protocole de Gilles Jacob et dit moi je veux un grand dîner de la présidence et qui sera avec Kering. Et donc on crée ce fameux dîner qui existe encore aujourd'hui du dimanche, du dimanche soir, du premier dimanche du festival, avec à la fois la prise de parole du festival et la remise des prix Woman in Motion, avec le talent confirmé qui remet des prix et qui choisit des talents, des jeunes talents qui ensuite reçoivent de l'argent. Donc ça, c'était sur le fond. Et ensuite, effectivement, ça nous permettait... Alors, Thierry Frémaux a toujours été très clair, c'est qu'il ne pouvait pas donner des infos en off à nous et pas publiquement, mais on arrivait quand même à avoir quelques infos, de savoir qui venait, qui pouvait être dans le jury, donc de donner aux marques cet avantage par rapport à la concurrence. Et ça, c'était important pour que les marques se sentent... que ça leur apporte quelque chose de concret.
C'est un super partenariat, quoi, pour le coup. Pour les marques, le groupe, pour tout.
Après, ce qui était pas évident, c'est que, encore une fois, le festival a été toujours très clair. Il n'y aura pas de passe-droit. Autant vous pouvez mettre en place plein de choses au sein du festival, mais nous, en fait, on a notre intégrité, et ce qui est absolument normal. C'est juste que c'était à nous, après, d'être suffisamment fin pour se dire, tiens, attends, regarde, on peut faire ci, on peut faire ça, on a peut-être cette info-là. On va peut-être remonter ça, on va donner ça aux marques. Et après, c'était aux marques de faire. Après, nous, si les marques voulaient se positionner, c'était bien, si elles ne voulaient pas. Et sur la partie clienteling, c'était en fait des packages qu'on avait mis en place avec différentes négos pour pouvoir permettre aux clients de venir dans un contexte un peu cool. Et toutes les marques l'ont fait en année 1, ça a été très compliqué. Mais ça a été, pour moi, ça reste un souvenir dingue parce que pendant les 3 années où je l'ai fait avant de passer chez Boucheron, c'était une folie. Enfin, vraiment, pour le coup,
il y a moins de marche comme on dirait à la télé. Hein. C'est un peu plus court, mais c'est quand même une belle expérience.
C'est une belle expérience. Puis nous, on l'a vécu. Ça a été vraiment un truc d'équipe. Et ça, à titre perso, là, pour le coup, j'en garde des souvenirs indélébiles. Euh, et, et on était vraiment passionnés, on avait envie que ça fonctionne. Louise nous avait fait faire des tables rondes partout dans le monde. On avait fait une à Pékin, une à Londres, une à New York pour parler à des femmes cinéastes, pour être certain que ce qu'on proposait au niveau du groupe soit légitime, soit accepté par les gens du cinéma, soit pas un truc un peu encore une marque qui vient sur des sujets alors qu'en fait ils sont pas légitimes. Et le temps a donné raison à tout ça, donc malheureusement a donné raison à tout ça. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et quand Valérie Duport, qui était chez Chanel et qui arrive en tant que directrice de la communication du groupe pour remplacer Louise, c'était appréciable de voir quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui a dit « Mais ce que vous avez fait, les gars, c'est top, mais maintenant, on va le prendre. » Et elle, elle a eu en plus ce truc de vision de « Je vais le positionner encore plus haut, encore plus fort, on va l'étendre, on va l'étirer, on va... » Et ce qu'ils en font maintenant, c'est chouette, c'est pluriforme et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est chouette. Et effectivement, donc, après 3 ans, le groupe m'a proposé de faire partie du nouveau comité de direction de Boucheron, parce qu'ils venaient d'embaucher une nouvelle présidente, Hélène Pouly-Duquesne, qui venait de chez Cartier et qui voulait un peu insuffler une nouvelle énergie avec une feuille de route qui était très claire en termes de business, notamment l'ouverture du marché chinois pour la marque et la préparation des 160 ans de la maison. Okay. Et donc, bah pareil, il y a eu rencontre, il y a eu entente.
Encore un entretien qui s'est bien passé.
Bah après, j'en ai fait d'autres qui se sont pas bien passés. Là, je raconte que ce qui se passe bien. Et donc, c'était génial parce que ça me permettait de mettre les pieds en joaillerie, chose que je connaissais pas du tout, et de prendre un poste de direction, pour le coup, beaucoup plus affirmé dans un board de maison du groupe Kering, donc avec une mission. Alors là, pour le coup, je revenais vraiment dans l'opérationnel business. Donc c'était hyper intéressant. En gros, les gros faits d'armes, là, ça a été surtout un gros focus sur les 160 ans de la maison avec l'exposition qu'on a fait à la Monnaie de Paris à l'époque, Vendorama, qui était un nouveau format d'expo pour des maisons de haute joaillerie. On a voulu être un peu atypique, parce que la maison l'est aussi, repenser à la brand Bible et surtout aller énormément en Chine pour ouvrir le marché chinois. Réouvrir, mais bon, techniquement, c'était réouvrir, mais en vrai, c'était ouvrir le marché chinois avec Hélène et Thierry Lamouroux et de se lancer dans ce truc-là de dire bah, allez, go, on y va. On prend nos valises sous le bras et on va à la conquête du marché chinois. Et donc, c'était super intéressant. Moi, la Chine, je la connaissais parce qu'on y allait régulièrement pour Kering. Parce que l'idée, c'était d'installer aussi, mieux installer le groupe là-bas, d'un point de vue de com, et d'empreinte, on va dire, pour l'image du groupe. Donc je connaissais un peu la Chine, mais je connaissais pas la Chine côté business. Donc concrètement, les clients, comment ça se passe, etc. Et donc là, c'était vraiment un trempage dans l'acide qu'on a fait, et c'était super intéressant. Mais, il y a un mais, parce que forcément, tout n'est pas toujours très beau. Ça a été très dur, en fait, pour moi, parce que je pense que ça a été, avec le recul, ça a été un poste trop grand pour moi, parce que je n'avais pas encore vraiment été un numéro 2 de Codir qui a fait du business dans un board, point numéro 1, et point numéro 2, je ne connaissais pas la joaillerie. Donc, en fait, j'avais deux points d'incertitude sur lesquels j'avais besoin d'évoluer.
Ouais.
Sur le premier point, encore une fois, le groupe qui est dans une démarche hyper... avenante avec son staff, m'ont permis d'être coaché. Donc j'ai été coaché par un mec qui s'appelle Thierry Chavel et qui a été qui a fait un effet sur moi de maïotique, c'est-à-dire vraiment ça a été pas une psychanalyse, mais en tout cas il m'a fait sortir des trucs où j'ai compris plein de trucs, des choses qui sont très connues, mais le syndrome de l'imposteur, quand t'es marginal, c'est qu'en fait tous ces trucs liés rapport à
d'où tu viens,
d'où je viens,
les études,
et ce qu'il faut se prouver, et ce qu'il faut parfois prétendre. Et ils m'ont aussi permis de faire partie du leadership programme du groupe, qui est un programme en plusieurs modules, qui, pareil, est un programme de formation, on va dire, plus. Et pour moi, c'était un peu aussi compensé ce que je n'avais pas d'un point de vue d'études.
C'est quand même bienveillant d'un groupe comme ça, d'essayer de... Tu sens que quelqu'un a des lacunes... Et de pas dire bon bah allez on le remplace tout de suite, on va essayer de l'amener au niveau pour et qu'il garde ses fonctions
complètement.
C'est la rétention des talents après aussi, ça les sert hein.
Oui bien sûr mais pour le coup je le regarde même avec le recul, je regarde avec beaucoup de chance. Alors il y avait beaucoup de travail en face, c'est pas c'est pas arrivé que comme ça, évidemment, mais il y avait une envie, je crois, en tout cas, de m'accompagner et de faire en sorte de me donner tout ce qui était possible de me donner à leur niveau, jusqu'à ce que, bah, si c'est plus possible, c'est plus possible. Mmh. Et ça, ça a duré 3 ans. Donc après les 160 ans, après les tout premiers démarrages en Chine, il s'avère que moi, je commençais à décrocher. Mmh. Je commençais à me poser trop de questions, je commençais à me sentir... Je me suis dit, mais finalement, j'avais été drivé par les 160 ans, par Vendorama, l'expo, le livre, les travaux du 26 Presse-Vendôme. Puis il y avait la Chine où on avait fait notre première campagne avec Zhu Dongyu. Et enfin, vraiment, il y avait tout ce truc-là où je me suis dit, c'était ça, c'est concret. Je pose des choses, je sais faire ça. Mais après, quand tout ça est passé, qu'il a fallu rentrer vraiment dans le sujet, je me suis dit, mais finalement, je ne maîtrise pas mon sujet. Est-ce que je suis bien à ma place? Je commençais à me faire un peu des nœuds au cerveau. Et je m'entendais extrêmement bien avec Hélène au quotidien, et c'est des choses sur lesquelles on pouvait avoir quand même des discussions. Et on s'est un peu rendu compte que c'était peut-être temps que ça s'arrête. Et au lieu que ça s'arrête dans la douleur, autant que ça s'arrête plutôt pas dans la douleur. Et moi, j'étais à l'époque physiquement extrêmement fatigué. Je pense qu'à titre perso, je commençais à m'émanciper. Est-ce que c'était une époque aussi où j'étais un peu paumé, je commençais à avoir ce rôle de mieux gagner ma vie, donc est-ce que je me suis commencé à me sentir un peu plus, pas à l'aise, mais à sortir un peu plus à... Donc j'étais peut-être pas exactement câblé correctement, j'avais 33 ans à l'époque, et il s'avère que tout ça s'est clôturé par un cancer.
Ouf que tu dis ça, en fait, pendant que tu parlais là, je me suis dit, ça sent le cancer. Les gens que je connais qui ont le même parcours que toi, ça, ils sont passés par un cancer.
Ben, ça n'a pas loupé.
C'est ouf que tu dis ça. Ouais.
Et j'y suis pas passé loin. Et ça a été vraiment... En fait, je me suis dit, si je n'étais pas parti du poste... Parce que ça s'est passé à 2 semaines près. C'est-à-dire que j'ai quitté le poste et 2 semaines après,
T'as le diagnostic qui tombe.
Il y a le diagnostic qui tombe. Et en fait, je me suis dit, si j'avais été resté,
je
ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je ne me serais pas écouté comme je me suis écouté. Même si c'est plutôt mon conjoint qui travaille dans la médecine qui m'a forcé à aller me faire écouter. Donc merci à lui quand même. Et en fait, je me serais... je pense que j'aurais été droit dans le mur parce que clairement, mon corps m'a dit « Toi, t'as pas su dire ça avec ta tête, mais moi, je vais te dire stop. » Donc si tu l'entends pas une fois, deux fois, bah troisième fois, ça marche.
Ouais, bien sûr.
Donc ça a été un petit choc. Mais finalement, ça a été dans la... mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça a été pris à temps, même si c'était une tumeur très agressive, mais ça a été pris à temps. Et après, il y a tous les questionnements qui sont revenus de mon père malade. Enfin, vraiment, c'était un moment où je me suis dit « Ah, waouh !» En fait, j'ai mieux compris par ce par quoi il est passé, ce qu'il a pu faire endurer parfois à ma mère et à ma sœur, comment il s'est positionné aussi, lui et tout. Et en même temps, ça m'a fait sortir de ça. Et puis, ça m'a rendu un tout petit peu plus fort. Et à ce moment-là, tout le monde me dit, à commencer par ma famille, maintenant, pendant genre au moins 6 mois, tu ne fais rien.
On débranche.
Et en fait, ça a été impossible. C'est-à-dire que du moment où je me suis retrouvé seul chez moi pendant la convalescence, je me suis dit, c'est impossible. Je vais devenir fou. Ça va tourner dans ma tête, ça ne va pas être possible. Et il s'avérait que depuis quelques temps, on discutait avec Guillaume Delacroix, qui est à l'agence DLX.
Qui est venu faire le podcast.
Qui est venu faire le podcast. Mmh. C'est lui le premier que j'ai écouté. Et Guillaume, on s'était toujours connus parce qu'en plus quand il était chez Balenciaga, moi j'étais chez Kering, et puis on se voyait régulièrement, enfin de temps en temps, pour parler de DLX. Moi j'étais assez impressionné parce qu'il avait mis en place aussi vite, aussi fort, avec quelque chose de très clair dans ce qu'il offrait en termes de service. Et on se dit, bah tiens, est-ce qu'on s'associerait pas? C'était une croisée des chemins qui lui faisait du sens à ce moment-là, qui me faisait du sens. Donc le temps de faire ma convalescence, ça a duré à peu près 1 mois et demi, je ne me suis pas laissé plus de temps.
C'est une courte convalescence.
Une fois que j'ai pu remarcher, je me suis dit c'est bon. Et Guillaume et Wassim d'ailleurs ont été top, vraiment topissime. Et on est en janvier de je ne sais plus quelle année, et on commence l'aventure. Et en fait, rapidement, je m'aperçois, je me dis, merde, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur?
Oui, parce que t'arrives en associé vraiment.
L'idée, c'était de s'associer. Donc, on s'est dit, on va se donner 3 mois. On se la teste. Donc, pendant 3 mois.
Sachant que t'as dit que tu voulais jamais être entrepreneur.
Non, mais.
On y va quand même.
Débilus, il a besoin de taper dans les murs, puis après, c'est bon. Et en gros, je m'aperçois, mais je me dis, non, il faut que je me donne le temps parce que c'était tellement radicalement différent de ce que j'avais connu. Plus Guillaume venait d'ouvrir New York, c'était hyper intéressant, il y avait une super énergie. Et ça permettait en fait de dire, mais attends, donc concrètement, c'est quoi gérer une boîte? Donc il y avait la partie RH, la partie finance, l'offre, qu'est-ce qu'on offre, et où est-ce qu'on va chercher l'argent, où est-ce qu'on va pas la chercher. Donc je me suis dit, de toute façon, clairement, c'est avec les Fashion Week. Donc on va en laisser passer au moins deux pour voir concrètement, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux gérer des clients, est-ce que je peux aller chercher des clients. Et c'est vrai que c'était pas évident, et je pense que ça n'a pas été évident non plus pour Guillaume et pour Wassim, parce que d'un coup j'étais là, donc je prenais de la place et je savais pas trop. Mais c'était super super intéressant. Mais ça, et c'est vrai qu'au bout de 9 mois, on s'est dit bon, je crois qu'on va pas y arriver. Donc moi je préfère qu'on soit amis et amis pour la vie. Il y a pas de problème. Mais je pense qu'en gros, on peut pas bosser ensemble. Et c'est vrai que Guillaume, je pense, et Wassim s'autosuffisaient en tant que binôme, et c'est un vrai succès. Ils ouvrent Londres là. Et vraiment, bravo à eux. Et grâce à eux, j'ai compris que je ne peux pas ou je ne sais pas être entrepreneur.
C'est bien que tu aies eu le truc de ne pas avoir l'ego, de se dire, bon, j'essaie jusqu'au bout et abîmer une relation.
On a pu continuer à avoir un vrai dialogue honnête, et même de se faire des feedbacks avec Guillaume, tu vois, de dire mais finalement est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Donc ça a duré 9 mois, et au bout de 9 mois donc je suis parti, vraiment, mais genre la semaine où je suis parti, on me rappelle, Laura Vernier me rappelle pour rencontrer Jean-Philippe Eckett, qui avait pris le poste de président de l'Anvin avec le nouveau projet avec Bruno Cialelli. Et quelques mois avant, j'avais vu le défilé de Bruno et je m'étais dit, putain, c'est vraiment intéressant. C'est une écriture pour l'Anvin qui est super bien, que je trouvais super smart. Mais c'était resté dans un coin de ma tête. Et ma rebolote, entretien, etc.
Qui se passe bien.
Qui se passe bien. Et il s'avère qu'en plus, Bruno a un de ses collaborateurs les plus proches, qui s'appelle Pierre-Olivier Agostini, et que j'avais rencontré à l'époque quand il était l'assistant de Jean-Jacques Piccard. Donc, il y avait quand même des petits liens, et sans le vouloir, mon meilleur ami, qui s'appelle Mathieu Dumont, était au comité de direction. Donc je me retrouve avec mon meilleur pote, avec des gens que je me suis dit, trop bien, parfait.
Dans un bateau qui est quand même compliqué.
Mais je n'avais pas exactement évalué la complication.
C'est une très belle maison, mais c'est vrai que la gouvernance et le...
Dure.
La gestion, elle est pas facile.
Dur. Au bout de 3 mois, Jean-Philippe, ça s'arrête, Jean-Philippe Eckett. Donc là, on se dit waouh. Le premier jour du premier confinement, un changement radical de gouvernance. D'un coup, c'est Fosun qui reprend en direct avec nous à Paris. Et là, ça a été turbulent. Pour ceux qui veulent faire des métaphores de l'avion, ça a été PNC assis attaché, forte turbulence pendant 6 mois. Là, vraiment, on s'est fait.
Le stage à France, il a servi.
Ah, il a servi de ouf. Parce que je me suis dit. Mais en même temps, voilà, j'avais Mathieu qui était là, Nathalie Reynaud qui est aujourd'hui chez Balenciaga, qui était là. Et en fait, on voulait que ça marche, parce qu'on trouvait que le travail de Bruno était bon, et on commençait à avoir les prémices d'un retour de business aux US, parce que Bruno avait sorti la Curb, la basket, un peu de skate, voilà. Donc le Covid, on en profite, il y a un tout petit peu plus d'indépendance par rapport à la Chine, parce qu'il y avait eux, ils n'étaient pas encore confinés alors que nous on était, bref, il y avait un décalage. Donc il y avait des décalages d'activité. Donc c'est là où on est commencé à arriver avec la campagne avec Paris Hilton, on a fait le clip avec ce Rich Girls, et on a vu que ça, c'est des choses qui ont vachement bien fonctionné.
Ah, ça avait buzzé de ouf, hein,
aux US. Et donc on voyait que ça, et on s'était dit, trop bien, ça redémarre aux US et tout, donc on va pouvoir rapporter du chiffre et faire que ça, qu'on passe à autre chose en tout cas, et qu'on soit moins challengé par l'actionnaire. Et en fait, c'était franchement de pire en pire, et là ils ont commencé effectivement à écrémer. Donc moi, j'ai pas fait partie des premiers wagons, mais ensuite il y a Arnaud Bazin qui a été nommé. Là, ça a été franchement très compliqué. Très, très compliqué. Et au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. Alors là, pour le coup, ça n'a pas été ma décision. En gros, un matin, je suis arrivé et j'ai trouvé dans la
concubie.
J'ai trouvé dans la photocopieuse un papier que je n'aurais pas dû trouver. Classe. Et je le dis parce que franchement, grande classe. Mais bon, ça arrive. En fait,
bien sûr, ça fait partie du jeu. Hein.
Dans une vie professionnelle, ça arrive. Donc, je me suis aperçu que ça fait chier sur le moment, on se prend une énorme gifle. Je suis resté peut-être 2-3 semaines dans mon lit à me dire, mais t'es vraiment qu'une merde, tu vas avoir 40 ans, t'es au chômage, on t'a acheté comme si t'avais fait une énorme connerie, alors que non, j'ai déjà fait plein de trucs, et vraiment ça m'a remis en question, et ça m'a vraiment ça m'a un peu trauma. Et en même temps, je me suis dit, mais non, stop, en fait, ça arrive à tout le monde, c'est des coups dans la gueule, on se relève, parce que si on se relève pas, on peut pas avancer. Donc ça a été une autre leçon différente, mais tout aussi importante. Et après, j'ai été appelé par Camille Hutin, qui est une des communicantes de la maison Chanel et surtout qui est la boss du 19L de Chanel, le centre des métiers d'art, et qui me dit « Je sais que tu viens de partir de chez Lanvin, moi je cherche pas quelqu'un en interne, je cherche quelqu'un qui m'aide parce que j'ai besoin de quelqu'un qui sache comment une maison de mode fonctionne, mais qui sache faire du corporate parce qu'il faut inaugurer le 19M. »
Mmh. Donc, si tu peux expliquer ce qu'est le 19M.
C'est le centre des métiers d'art de la maison Chanel qui est situé à Aubervilliers, qui regroupe l'ensemble des métiers d'art Chanel. Et elle me dit, je l'inaugure, et avec Macron, Brigitte et trois ministres, et moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui ait l'habitude un peu de faire du corpo, mais qui comprenne aussi les rouages de la mode. Si tu veux, je te file une mission. Je me suis dit, j'ai pas su être entrepreneur, peut-être que je saurais être consultant. Donc je me suis lancé là-dedans avec un contrat de 3 mois. Donc premier mois qui était dédié vraiment à l'inauguration et la préparation de cette prise de parole de la présidence de la République avec tout ce que ça peut comporter. Donc super intéressant à titre perso parce que j'avais jamais fait ça de ma vie.
Ouais.
Et après pendant 3 mois sur la première expo du 19M. Et je me suis aperçu qu'en fait consultant... j'étais autant pas consultant que pas entrepreneur.
Ah non, mais pourquoi?
Parce qu'en fait, je me suis assuré, je crois que j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin d'avoir une entreprise, un boss.
Un bureau.
Un bureau, aller au bureau.
Une DRH.
Une DRH, des tickets resto. Non, je déconne.
Mais
j'ai besoin d'un cadre. Je m'aperçois que j'ai l'impression que sans ce cadre, je me paume.
Ouais.
Et que je sais pas trop travailler depuis chez moi, par exemple. Et donc autant j'ai aucun sujet avec le télétravail, chacun fait ce qu'il veut, si les équipes elles veulent partir en télétravail, elles y vont, je fais confiance naturellement, mais moi,
toi, t'aimes pas,
à titre perso, j'ai besoin de me lever de mon lit, sortir de mon appartement, aller au bureau, revenir, après on peut être flex sur les horaires, mais au moins c'est un rythme, et c'est rapport à ce que je disais au début sur la discipline, en fait je crois que j'ai besoin d'une forme de discipline qui me cadre, parce que sinon je pense que j'ai la tête qui part trop vite.
Okay.
Et à la fin, c'est là où on m'a appelé pour Rabanne. Et quand on m'a appelé pour Rabanne, j'ai dit oui direct.
Ça faisait parce que t'avais envie de retrouver ce cadre.
J'avais envie de retrouver la mode, comme je l'avais chez Lanvin. Deux, Dossena, Julien, j'avais toujours dit que si un jour il y en a un avec qui je veux travailler, c'est lui.
Ah ouais?
Ah vraiment, vraiment. Je me rappelle, je le disais déjà à l'époque quand j'étais chez Boucheron. Je me disais si un jour peut-être, parce que je trouve qu'il a un travail d'une intelligence rare. Et que je sentais qu'il y avait un truc intéressant. En plus, on m'explique qu'il y a une nouvelle CEO qui arrive, une nouvelle dynamique avec, encore une fois, en fait, à chaque fois, c'est des changements.
Des cycles.
C'est des cycles. Donc, on me redit, le putsch est en train de comprendre qu'il faut qu'ils accélèrent sur la mode. Donc, on met une nouvelle présidente, on met tout ça. Donc, on a un peu mis tout ça. On a discuté de tout ça, pardon. Et voilà, me voilà embarqué dans l'aventure Rabanne depuis bientôt 2 ans maintenant.
Et c'est quoi la feuille de rôle? C'est quoi le poste là que tu...
Donc là, c'est un poste de Chief Marketing Officer. Je visais aussi ce titre-là, à titre pour un peu évoluer et pas ne rester que DIRCOM.
Ouais.
Chez Boucheron, j'étais DIRCOM++. Chez Lanvin, j'étais DIRCOM++. Donc j'avais vraiment envie de mettre un peu un titre en me disant, je vais avoir 42 ans à la fin de l'année. Je me suis dit que c'était le bon âge pour commencer à...
C-suite executive.
Exactement. c'est con, mais je m'étais fait...
Mais tu l'avais déjà eu avant, en fin de compte.
Pas un C-suite executive.
Il n'y avait pas le C-level.
Non, mais là, ça va faire genre le mec qui... Non, mais pas du tout. Mais en fait,
c'est des étapes.
Je m'étais dit que c'était des étapes et que c'était important pour moi de les franchir un peu pour me... aller au bout de l'ambition que je m'étais fixée il y a 20 ans quand je suis arrivé à Paris.
Ouais.
Et en gros, on accélère le business. En gros, tu vois, ils s'aperçoivent que s'il faut faire grossir le parfum qui est déjà énorme, je ne pensais pas que Rabanne Parfum était aussi puissant.
Mais quoi, mais bien sûr.
Vraiment, je m'y attendais pas. Je savais. One million,
One million.
Mais à ce point,
c'était locomotive.
C'était le clic.
C'était le locomotive.
Et un délire. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est puissant,
mais
pour que ce soit encore
montes.
Plus puissant, il faut que la mode soit plus puissante. Donc, avec
le challenge d'alignement entre l'image du parfum et l'image de la mode.
Et ça m'a énormément plu en me disant, finalement, c'est aussi créer ce pont entre les deux. C'est aussi
pas évident en plus.
Non, et c'est travailler de manière différente. C'est que dans la plupart, pour pas dire toutes les maisons de mode, c'est la mode puissante et le parfum, la beauté, soit en licence. Mais souvent, c'est en licence. Licence, c'est des mêmes entités, c'est dans les mêmes groupes, mais ça reste un propos de licence. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est complètement dans un modèle économique, c'est en vertical chez Puig avec les marques parfums. Ils sont actionnaires de toutes les marques mode. Donc, ça change le rapport. Mais là, il y a une vraie envie de dire, bon, les gars, pendant des années, il y avait une marque très puissante sur le masculin en parfum avec un stéréotype d'homme très...
One million.
Très one million. Et de l'autre côté, une marque de mode hyper féminine très pointue, qui parle à une audience plutôt... plutôt petite, mais qui a vraiment... qui est légit. Et donc, on a vu ce potentiel. Enfin, moi, j'ai vu ce potentiel. Je me suis dit, en fait, c'est assez génial. Et ici, à mon petit niveau, avec ce que j'ai vécu, on peut potentiellement monter un projet qui peut fonctionner avec Nadia Douib, la présidente, et Julien Dessena. Moi, je signe. Voilà. Après, évidemment, le quotidien, c'est pas toujours évident. Quand tu poses pour un groupe de parfums, et parfois, est-ce qu'ils comprennent...
Bien sûr.
Voilà, mais ça, c'est du quotidien, mais... Sur le fond, tout le monde parle le même langage. Il y a eu un tel travail depuis 2 ans de rapprochement, sur le fond comme sur la forme, avec évidemment la phase de rebranding, les lancements du make-up pour se rapprocher plus d'un univers féminin, le lancement de Fame avec Elle Fanning. Donc tout ça, ça a permis... Et le changement de nom. Tout ça, ça a permis de rapprocher. Puis on a été exploré, on a étiré avec H&M, avec un travail canon que Julien a fait en termes de collection, qui était aussi un peu ses 10 ans chez Rabanne. Le fait que il veuille re-signer, que le groupe re-signe avec lui. Enfin, il y avait aussi une envie de continuer à collaborer ensemble, même après 10 ans. Donc ça a redonné aussi, ça a insufflé un truc. Là, je le sens en fait dans la marque, ça a insufflé un truc. On est en train de la pousser. Les ventes du sac 69 décollent, parce que déjà que c'était un truc un peu tendance auprès d'une certaine population. Là, on sent que ça grossit, que ça grandit, que ça devient un sac brandé, entre guillemets, mais 100%. Même s'il n'est pas logoté, on sait que c'est Rabanne.
Absolument.
C'est pas facile de faire un hit bag en plus. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais non, c'est très,
en plus,
très
le sac a littéralement 60 ans. Donc, voilà, on sait.
Ah oui, je ne connaissais pas l'histoire derrière le sac. Je pensais que c'était nouveau.
Non, pas du tout. C'est M. Rabanne qui l'a inventé. Alors, on dit 69, mais en 67.
Ouais.
Et qui, à la base, donc la maille métal, c'est les anciens tabliers des bouchers de Paris.
OK.
Et la chaînette que tu as, c'est la chasse d'eau. C'était la chaîne de d'eau des toilettes publiques parisiens.
C'est dingue.
Et en gros, c'était une sorte de ready-made à l'époque, parce qu'il était dans ce mouvement-là avec les Duchamp et Enco. Et en fait, il a détourné des objets, comme il détournait du métal pour faire des robes. Et c'est vrai que des années après, en fait, c'est un sac qui est toujours resté, qui n'a jamais disparu. Ouais, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ça devient un objet de mode, avec un propos de mode, et qui plaît surtout, et ça c'est une chance, à la nouvelle génération qui ne connaît pas l'histoire.
Moi je connaissais pas, j'adore le sac, mais je connaissais pas.
Donc on essaie de surfer là-dessus, et voilà, donc on met plein de choses en place, on teste aussi plein de choses. Et
puis ça marche, excuse-moi, mais ça marche avec aussi l'univers de Julien, pour le
bien
coup.
Bien sûr,
c'est ça qui est fort en fait, c'est que ce sac-là, il va, c'est l'époque Paco Rabanne, mais en même temps, il va avec la signature qui est bien précise de Julien.
Et lui, en fait, Julien, je pense qu'il a vraiment ce truc de je ne sais pas comment ça se passe dans son esprit, mais en tout cas de curseur, où il y a son propos qui est très affirmé, et on sait où il a envie d'aller. Il y a énormément de couches de références et puis de construction, donc ce qui fait que ça rend un propos de mode extrêmement abouti, et il injecte en fait ce qu'il faut d'identité de la marque pour se dire « Ah oui, mais c'est Rabanne en fait ». C'est Rabanne,
ouais,
parce que il va y avoir des formes d'assemblage, il va y avoir du layering, il va y avoir plein de choses qui vont faire que ça se situe dans un cadre qui fait qu'on comprend et on peut lire que c'est Rabanne.
Ah, c'est beau.
Ouais.
J'ai pas grand chose à rajouter. Hein, c'est
clair. Je suis hyper contente que tu sois venue pour raconter un profil qui change un petit peu des profils qu'on reçoit, et particulièrement sur le fait que tu as insisté, tu vois que en fait l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde, le consulting c'est pas fait pour tout le monde,
je crois
tu vois.
Pas.
J'ai l'impression qu'on a tendance à beaucoup glamouriser ces métiers-là, tu vois, l'indépendance, le truc, alors qu'en fait il y a des très belles carrières à faire dans des univers plus corporates, il y a plein de choses intéressantes.
Et tout le monde peut pas être entrepreneur, quoi. Quand tu écoutes aujourd'hui, quand tu consommes les réseaux sociaux, YouTube ou quoi, c'est tout le monde veut être entrepreneur, alors que oui.
Monter sa start-up, son truc, on remercie.
Et tu peux être hyper épanoui.
Après, je pense que tu as autant de difficultés dans l'entrepreneuriat que tu en as dans
bien
le
salariat. Bien sûr, il y a des challenges aussi, c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Moi, je sais que les difficultés de l'entrepreneuriat, je pense que je ne pourrais pas les y faire face. Et je suis impressionné par les gens qui arrivent à monter leur boîte ou, comme vous, en gros, à monter des boîtes et à en monter une à côté, et puis surtout avoir des idées, avoir ce truc, tiens, on va prendre ça, on va le mettre là, on va avoir ce truc là. Moi je
mais sais. Tu l'as aussi d'une certaine manière, tu vois,
mais dans un autre cadre.
Mais c'est qu'une histoire de cadre en fin de compte. C'est là que j'en venais, c'est que en fait tu te rends bien compte aussi dans les cycles que tu as eu, que tu vas dans une industrie qui est déjà assez freinée, on va se le dire, de projet en projet. Donc c'est, en fait, c'est des mini-entreprises à chaque fois, tu vois, ouais. sur des temporalités plus courtes peut-être, avec des risques hein, peut-être un peu plus mesurés parfois, ou en tout cas qui ne t'appartiennent pas toujours. Ouais. Mais c'est pareil, en fin ouais. de compte.
Mais c'est vrai que là, j'ai envie de continuer. Justement, tu parlais au début de... Et la suite, pour moi, la suite, elle est chez Rabanne. Parce que je crois à ce projet, j'ai envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Je suis assez au fait des difficultés et des limites, mais aussi de toutes les opportunités. Et je pense que j'ai aussi besoin de... Si je devais regarder objectivement ce qui est le chemin de derrière, j'ai aussi besoin de stabiliser un peu les choses. Je pense que les sauts de puce,
ouais.
de mon fait ou pas de mon fait, pour plein de raisons différentes que j'ai à peu près expliquées, c'est très bien. Mais c'est vrai que je pense...
De
pérenniser les choses et puis d'avoir quelque chose où tu dis, putain, on l'a construit, quoi.
Ouais.
On l'a construit, c'est solide. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu peux dire, bon, bah, maintenant que c'est fait... peut passer le relais à quelqu'un d'autre qui aura une autre énergie et qui va, de manière complémentaire, continuer l'histoire, comme je pourrais le faire ailleurs. Et pour en revenir à la question de l'évolution, la seule chose que je me pose aujourd'hui comme question, c'est sans diplôme, en tout cas sans diplôme, stamp HEC, stamp INSED ou CELSA ou toutes ces grandes écoles, est-ce que je suis en capacité de dépasser le poste que j'ai actuellement, c'est toute la question que j'ai aujourd'hui et j'ai pas la réponse, j'ai pas vocation à l'avoir tout de suite, même peut-être à jamais l'avoir, mais c'est ça aussi. Par contre, que le salariat, tu sens que autant l'entrepreneuriat, je pense que sky is the limit et c'est t'es ta propre limite.
All is the limit aussi.
Oui, alors.
C'est quoi?
All. Tu vois, tu peux tomber.
Dormir, ça fait du bien. Mais parfois, c'est juste la question que je me pose, c'est dans quelle mesure le salariat. T'as pas une limite de fait parce que t'es pas diplômé, parce que l'âge compte quand même beaucoup.
L'âge beaucoup,
Et que parce que t'as pas l'énergie. Et puis, moi, je sais que sur les métiers de communication, il y a un jour où je serai obsolète. Je ne pourrai pas faire face à un nouveau Cyril qui va arriver.
Ça sera le moment de devenir CEO.
Voilà, je ne sais pas le dire.
Non, mais
c'est vrai.
Et que j'aurai un nouveau Cyril qui aura 35 balais, qui aura peut-être 20 ans de moins que moi et qui va me dire, bah, t'es gentil mon coco, mais en fait, tu comprends pas ce qu'on est en train de... Mais comme j'ai pu le penser. Ouais,
mais après, t'as des Sidney Toledano qui sont là.
Là, c'est level. Là, on est au-delà
Ouais, mais t'as des gens qui sont d'un certain âge et qui sont encore très, très connectés, qui savent ce qui se passe à tous les niveaux. Moi, c'est peut-être parce que je vis aussi.
On se rassure.
Non, mais l'expérience, ça a valeur aussi, tu vois. L'expérience, la connaissance du business. Vois, et après, c'est peut-être de savoir s'entourer, de rester un petit peu connecté avec ce qui se passe, les évolutions, de s'intéresser et de laisser sa chance à une génération qui arrive aussi, tu vois, parce que bon, il y a un espèce de renouvellement qui est naturel aussi.
Et c'est en ça que le fait d'être prof à Dupéret, ça m'a toujours gardé. Parce qu'au début, il n'y avait pas trop de différence d'âge avec les élèves, genre il y avait 5 ans.
Ouais.
Et là, je commence à avoir une plus grande différence d'âge avec les élèves. Et là, clairement, ils m'apprennent autant que je leur apprends.
C'est hyper beau, ça.
Ah, c'est génial.
Et donc, à chaque fois, je leur fais croire. Bah, je ne sais pas s'ils vont écouter ça, mais si je leur fais croire. Non, mais bien sûr que de ouf, je suis au courant. Et
en fait, je l'ai vu sur TikTok.
Pas du tout.
Et après, je vais regarder. Je suis là, genre, ah putain, ah ouais, d'accord, j'y étais pas du tout là, en fait. Donc,
on adore.
Ouais, non, mais sinon, tu passes pour un vieux gars qui n'a rien pigé, qui est complètement à côté des tendances. Donc, donc après, je peux faire le mariole auprès de mes neveux, de mes nièces et tout ça.
Genre. Ouais, bon, trop bien. Et l'écriture, alors?
Bah, l'écriture, c'est tombé dans un grand trou. En fait, non, pas pour être tout à fait, si je dois être tout à fait honnête avec vous, je l'ai terminé.
Okay. Mais donc c'est un livre.
Oui.
Okay. Donc plutôt roman.
Non, c'était un essai.
Ok.
Et en fait, je l'ai déposé à la Société des gens de lettres.
D'accord. Mm-hmm.
J'ai tenté quand même de l'envoyer à des maisons d'édition.
Ouais.
Bon, bah, je me suis fait jeter en l'air, évidemment. Mais je suis content d'avoir été jusqu'au bout.
Tu sais que tu peux autoproduire avec Amazon.
Ouais, je sais. Je
place ça là comme ça.
je sais.
C'est le nouveau truc. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent autoprod sur Amazon que s'ils étaient chez Hachette.
Mais là, je pense que non. En fait, je pense que c'était comme une analyse. Mmh. C'est-à-dire que je l'ai fait. Ça a duré à peu près 10 ans. Et j'ai juste eu besoin, je pense, de le mettre dans une boîte aux lettres.
Ouais.
De me dire, j'ai été jusqu'au bout. J'ai fermé le truc. Et depuis ce jour-là, j'y pense plus. Et en même temps, quand j'y repense, c'est que un truc de. Ouais, je pense que je me vidais l'esprit, en fait, à des moments où j'étais hyper en train d'évoluer, en train de questionner tout ce qui se passait autour de moi, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Je suis plus en phase aussi, même avec moi-même et tout ça. Donc,
J'aimerais bien juste qu'on finisse un peu, qu'on boucle un peu tout ça avec une thématique. J'aimerais bien qu'on parle de légitimité, c'est un truc qui est beaucoup revenu. À quel moment est-ce que tu penses que dans une carrière, on se sent, ou en tout cas, tu te sens ou tu te sentiras, si c'est pas encore le cas, légitime?
Putain, alors là, je vais parler de moi. Je vais parler de deux choses. Je vais parler de ce que je vois chez les autres et de ce que je vois chez moi. Chez moi, j'ai l'impression que je te dirai jamais.
Ouais.
Parce que j'aurais toujours l'impression d'être qu'il va me manquer quelque chose. Et, mais ça, je pense que c'est en moi.
C'est l'idée de pas assez. Toujours pas assez.
L'idée de pas assez et l'idée de se dire, mais en fait, un jour, on va venir te voir et on va dire, bon, allez, mon pote, on a bien rigolé toutes ces années.
C'est la rigolade.
Rentre chez toi. Mais en vrai, si je dois dire objectivement, ma légitimité, si je devais aller la chercher, je vais plutôt la chercher dans les gens avec qui j'ai travaillé. Dans ce que je peux construire avec eux pendant que je travaille avec eux et après que j'ai travaillé avec eux. Et c'est des gens avec qui, par exemple, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, on est soit toujours en contact, soit carrément amis. Et à travers ça, je me dis, bah, on a partagé quelque chose. Donc en ça, j'ai une forme de légitimité et je me suis aperçu qu'avec les années, ce cumul de gens me donnait plus de force. Et par contre, ce que je vois chez les autres, moi, je vais apporter de la légitimité chez les autres pas tant dans l'expérience, parce que tu peux être peu expérimenté, mais avoir une bonne compréhension de ce qui est... La légitimité, je la vois surtout dans la capacité de se questionner, la capacité de questionner ce qui est autour de toi et de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, j'ai une problématique et je ne vais pas partir, je vais pas te dire que tu es coupable avant que tu es innocent. Tu vois, je vais d'abord questionner, je vais comprendre ce que tu as essayé de faire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas mon sujet au départ. Après, je pourrais, quand j'aurai connu tout le truc, oui. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai souvent vu des gens arriver et dire « Putain, les gars, vous avez fait de la merde. » Bah non, mais tu sais pas, en fait.
Dur hein, d'arriver avec ce genre de truc. Je trouve, quand je le vois, c'est toujours, je me dis bah, « Pour le reste, pour comment tu reçois ce genre d'informations, tu vois, que c'est un peu de déshumanisation qu'on a dans notre industrie aussi, où tu vois, tout est de la merde.
C'est beau, c'est pas beau, c'est moche, c'est bien.
Il n'y a pas de compréhension de « Ok, bon, vous n'avez pas réussi, c'est quelque chose de différent que c'est de la merde. » Tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est trop facile. Et puis je me dis, c'est une posture trop facile. Non, mais en fait, on va couper court, ça, c'est pas valable. Non, après... Tu peux questionner la chose, tu peux ne pas l'aimer, ça c'est
un autre chose. Bien sûr.
Mais après, tu peux quand même apprécier le travail qui a été fait ou apprécier le travail qui n'a pas été fait. Exactement. Et à ce compte-là, pour moi, la légitimité, c'est cette sérénité d'esprit d'avoir des gens en face de toi qui ne remettent pas tout en question sur le principe de remettre tout en question. Qui remettent en question pour le dire, bah, je vais questionner le travail qui a été fait et à partir de là, je vais pouvoir entamer une discussion ou entamer juste un esprit d'analyse. Mais voilà, donc pour moi, je vais plutôt valoriser ce genre de choses que le reste. Et en ça, j'y vois de la légitimité parce que souvent, c'est des gens qui ont une intelligence d'esprit de se replacer en fait au bon endroit parce que ce qui peut te faire subir aux autres, tu peux te le reprendre dans la gueule.
Complètement.
Et je suis pas trop croyant et quoi que ce soit, mais je veux bien croire au karma quand même.
Merci beaucoup.
Bah, merci à vous. Je sais même pas combien de temps ça a duré.
Bah, tu vois, tu t'en es bien sorti.
C'est vrai. Non mais j'avoue que c'est vrai. On s'y prend. Puis le fait d'avoir le casque, ça.
La tisale,
Et puis je vous regardais vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait personne quoi.
Dans la bulle.
Merci beaucoup pour ton temps.
Merci.